Voilà, nous continuons notre série Béréen l'explorateur. On s'est arrêté à Exode chapitre 23, lorsqu'on parlait des lois que le Seigneur avait prescrites pour rendre la terre habitable. On avait expliqué que au chapitre 20, c'était plus des lois universelles, des lois liées à la relation avec Dieu, ensuite à ce que doit être l'homme vis-à-vis de son congénère humain, donc vis-à-vis d'un autre homme, d'une manière universelle. Et après, donc la fois dernière, on a plus parlé des lois liées au peuple d'Israël, telles que Dieu voulait qu'il soit, afin d'être un exemple pour les autres peuples, un peuple à part. Donc on a discuté sur ces lois la fois dernière, donc comment Dieu voulait que le peuple d'Israël soit, afin qu'il soit un exemple pour les autres. Et c'était aussi des lois qui étaient données pour qu'il y ait de l'ordre au milieu du peuple, que les gens s'entendent, que les gens travaillent ensemble, vivent ensemble. Donc Dieu a donné des lois pour permettre que les gens vivent ensemble, les enfants d'Israël, et rendre la terre aussi potable, parce que la terre, on se souvient, le Seigneur avait détruit la terre, avait plutôt envoyé le déluge, parce qu'il trouvait que la terre n'était pas habitable, la terre n'était pas vivable. Et c'est pourquoi, là, il donne maintenant des lois dont on a parlé la fois passée, pour rendre la terre habitable. Et donc nous allons continuer. Donc c'était arrêté au verset 9, 23-9. Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Donc le Seigneur veut rendre la terre habitable au point qu'il parle de mettre à l'aise aussi l'étranger. Donc quand l'étranger est au milieu de vous, mettez-le à l'aise, parce que vous aussi vous avez été étranger. C'est ce qu'il dit à son peuple. Nous continuons à partir de, on va lire du verset 10 au verset 13.
Verset 10. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche.
Voilà. Donc là, c'est la loi sur le travail de la terre et le travail tout court. Il dit, pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Je me souviens, quand on était à l'école, on appelait ça mettre la terre en jachère. Donc après avoir cultivé une terre pendant un certain temps, il fallait la mettre en jachère, donc ne plus cultiver dessus. Laisser la terre se reconstituer, c'est ce qu'on apprend en agronomie. Et on voit que le Seigneur avait déjà mis ça dans sa loi. Donc il fallait laisser la 7e année la terre se reposer. Donc on voit qu'il veut rendre la terre habitable. Il sait que si on est dans une culture, agriculture effrénée, hystérique, sans limite, sans frein, c'est nous qui en pâtirons. Donc on mourra de faim puisque la terre ne pourra pas produire. Il dit qu'il faut laisser une année de repos. Et vous allez remarquer que, Dieu n'explique pas tout en profondeur. Parfois, il donne des instructions et nous comprenons plus tard. Et c'est plus tard que les gens ont vraiment bien compris scientifiquement que c'était bien de laisser reposer la terre pendant un certain temps. Mais il n'y avait pas que ça. Il veut vraiment rendre la terre habitable. Mais tu lui donneras du relâche et tu laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Voilà. Donc il dit, tu laisses comme ça. Donc les restes là, ben les pauvres vont pouvoir en profiter et les bêtes des champs. Donc on voit toujours cette providence de Dieu, cette bonté envers toute créature sur la terre. Et tu feras de même pour ta vigne et pour les oliviers. Donc il pense aux pauvres, il pense aux animaux. Donc il faut penser à tout cela et les laisser manger, les laisser profiter, les laisser respirer. Et comme j'ai dit, il ne donne pas toujours toutes les explications. Et quand on lit la suite, on voit qu'il y a encore d'autres raisons. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour, tu te reposeras afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Donc le Seigneur se soucie de l'esclave. Il se dit, mais les esclaves, si je ne mets pas certaines règles, ils vont être épuisés, on va les tuer. Et il dit, mais il faut un repos le 7e jour, comme ça, ça peut permettre, même à l'esclave, même à l'animal, de se reposer. Donc on voit la bonté de Dieu. Vous savez, on a eu l'habitude d'entendre les gens dire, ah, quand on lit l'Ancien Testament, on voit le sang, on voit les guerres, on se demande comment le Dieu bon a pu accepter, tolérer de telles choses dans l'Ancien Testament. Il parle de tuer des animaux, il parle de ceci, cela, mais en réalité, les gens ne veulent lire que ce qu'ils veulent lire. Hein, parce que quand on lit ce qu'on est en train de lire, on voit au contraire la bonté de Dieu qui dit le 7e jour, repos, afin que l'homme se repose, l'esclave se repose, l'animal se repose. Et bien, et même vous êtes témoins de ce qui se passe aujourd'hui, où on ne veut pas le repos. Dans beaucoup de pays, est synonyme de lâcheté presque. Au Japon, aux États-Unis, on travaille 3 shifts, donc 3 de 8h à 14h, de 14h à 22h, et puis de 8h plutôt à vers 15h, de 16h à vers 22h, et puis toute la nuit, donc 3 tours. Donc les gens ne se reposent pas là-bas. Au Japon, n'en parlons pas. Donc, et après, on s'étonne qu'il y ait des dépressions, des gens qui craquent, beaucoup d'autres choses de ce genre-là. C'est parce que bon, les gens ne respectent pas ce que Dieu a voulu, qu'il y ait un certain repos hebdomadaire pour celui qui travaille. Oui. Oui.
Est-ce que Dieu permet qu'il y ait des esclaves dans son peuple comme il permet qu'il y ait des pauvres? Est-ce que c'est pour les mêmes raisons ou est-ce que c'est une raison différente?
Nous avons vu ça la dernière fois, c'est que la pratique de l'esclavage était comme une évidence à l'époque. Le Seigneur n'a pas voulu amener comme une révolution sociale. Il a voulu élever l'esprit des gens afin que dans l'élévation de l'esprit, les gens eux-mêmes se rendent compte que ce n'est pas bon. Il donne des lois qui montrent son amour pour les esclaves, qui montrent son amour pour les humains et même les animaux, de sorte que les gens, pas à pas, prennent la voie d'arrêter l'esclavage. Mais il n'a pas voulu que le spirituel soit confondu à une révolution sociale. C'est ce qui fait que quand les apôtres ont eu ce problème-là, les apôtres ont eu ce problème parce qu'il y a des chrétiens qui commençaient à dire « Christ nous a affranchis, donc on n'a pas à être esclave. Être esclave, c'est quelque chose d'abominable. C'est quelque chose qui n'est pas bon. On n'a pas à se soumettre à ça. » Que ce soit Pierre, que ce soit Paul, ils leur ont dit « Ah non, vous vous soumettez à vos maîtres. Vous ne quittez pas l'esclavage, sauf quand ce sont les maîtres qui vous libèrent, vous en profitez. » Le danger, c'est de faire que, finalement, le christianisme est une conquête de vouloir transformer la terre en paradis. Non, donc le Seigneur veut toucher le cœur, changer le cœur, et que le cœur, à partir, comme quand ils sont changés, apporte de la paix, de la joie, de l'amour sur la terre. Et tout en sachant aussi qu'il veut aussi que les gens reconnaissent que c'est lui qui est le Tout-Puissant. Ce n'est pas l'état d'esclave, comme on a dit la fois passée, ce n'est pas l'état d'esclave ou de maître qui te rend heureux réellement. C'est Dieu qui peut seul te rendre heureux. On peut être heureux, on peut être maître et être dans le malheur, être esclave, être dans le bonheur. Et en définitive, ce qu'on avait dit la fois passée, c'était que un maître et un esclave peuvent vivre ensemble dans un état de communion heureux. On a l'exemple du centenier romain, hein, de qui Jésus avait dit, je n'ai pas vu une telle foi même en Israël. Ce centenier a été venu demander l'aide du Seigneur pour que le Seigneur guérisse son esclave. Ce n'était pas son ami, ce n'était pas son collaborateur, mais son esclave. On voit qu'il y avait un lien entre lui et son esclave qui était profond, excellent, alors que voilà, chacun était à sa place. Donc, le Seigneur n'est pas venu déposer sur la terre une forme de communisme, d'état égalitaire. Non, on est dans la diversité, on peut vivre l'unité et l'amour, la concorde, l'harmonie. C'est ça que le Seigneur veut, en changeant les cœurs, nous amener, malgré la diversité, à vivre dans l'harmonie, dans la paix et l'amour. Donc, le Seigneur n'est pas venu effacer les différences, qu'elles soient sociales ou pas, mais il est venu changer les cœurs afin de permettre que nous puissions vivre ensemble. Oui.
Oui, pasteur, est-ce que la phrase qui dit « le chrétien ne doit pas être pauvre », c'est biblique ? Un chrétien ne doit pas être pauvre.
Non, c'est écrit où ?
Non, je sais que j'ai souvent entendu parler de ça, soit je pose la question.
Non, l'apôtre Paul dit « j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette ». Donc, il a appris à vivre dans la richesse comme dans la pauvreté. Donc, il n'y a aucun verset qui dit ça. C'est des versets qu'on a. C'est des paroles inventées par des humains pour manipuler les gens. Mais cependant, nous, dans le Seigneur, on n'est pas pauvres, puisque toute la terre appartient à notre Dieu. Donc, même si, d'une manière humaine, je suis pauvre dans le sens où je n'ai pas dans mon compte bancaire ce qu'il me faut pour demain, mais dans mon compte céleste, j'ai ce qu'il faut pour demain. Donc, en ce sens-là, je ne suis pas pauvre. Dieu s'occupera de moi. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que nous, on peut dire qu'on est... Ce n'est même pas qu'un chrétien ne doit pas être pauvre. Non, il ne l'est pas, tout simplement. Aucun chrétien ne l'est. Parce que c'est son Père qui s'occupe de tout. Voilà. Mais cependant, selon le langage humain, oui, il peut y avoir des chrétiens pauvres. Comme à l'époque, il y avait des chrétiens qui étaient esclaves. Donc, on a parlé du cas d'Onésime et de Philémon. L'un esclave, l'autre patron, mais tous des chrétiens convertis par Paul. Voilà. Donc, et Paul était en train d'exhorter Philémon à vivre en harmonie avec Onésime, même si c'était son esclave. Voilà, donc, verset 13, « Vous observerez tout ce que je vous ai dit et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. » Donc, on voit bien que le Seigneur insiste sur l'obéissance à toutes ces paroles liées au fait de rendre la terre habitable, permettre que les gens vivent ensemble, permettre que la terre respire, les animaux respirent, les animaux. Voilà, aujourd'hui, il y a toutes sortes de sociétés pour défendre l'animal, mais on voit bien que le premier défenseur, c'est Dieu lui-même qui dit qu'il faut laisser même à l'animal un jour de repos, il faut laisser même à la terre du temps de repos. Donc on voit bien que c'est Dieu qui défend sa création. Et toutes ces choses-là permettent de rendre la terre habitable. Oui ?
Pasteur, je voulais avoir un éclaircissement par rapport au calendrier ou au jour de la semaine juif. Est-ce que ils comptent les jours comme nous, lundi, mardi, jusqu'à dimanche, chez les juifs ?
Non. Eux, ils commencent par dimanche. Ce que nous, on appelle dimanche, c'est leur premier jour.
Donc
leur dernier jour, c'est ce que nous, on appelle le samedi.
D'accord, donc ça veut dire qu'ils se reposent
samedi, le dernier.
Le samedi. Voilà.
Bon, maintenant, nous, dans notre configuration chrétienne, comment ça se passe? Parce que donc, on doit avoir au moins un jour dans la semaine où on devrait se reposer. Donc, nous, c'est considéré comme le dimanche, en fait, si tu veux, selon notre calendrier.
Non, c'est selon le calendrier qui a été fixé par certaines personnes. Ce n'est pas nous, les chrétiens, on n'a pas de calendrier, au fait. Nous, on est dans le monde. On lit la parole, on comprend que le Seigneur veut pas qu'on entre dans un système de travail où on n'aura pas de repos. Donc, c'est l'interprétation qu'on a de ce qui est écrit. Aujourd'hui, puisque en tant que chrétien, nous n'avons pas de jour spécial pour nous reposer et servir le Seigneur. Pour nous, tous les jours sont importants aux yeux de Dieu. Mais toutefois, ces lois qui avaient été données d'une manière à la fois pratique par rapport à la vie sur la terre et à la fois spirituelle, ont été... Donc, la partie spirituelle pour nous, c'est ce que le Seigneur nous amène, c'est que tous les jours sont importants pour Dieu et que toute notre vie appartient au Seigneur. Donc, à tout moment, on appartient au Seigneur. Maintenant, la partie pratique, parce qu'on est fait de corps humain, de corps terrestre, la partie pratique, c'est que c'est pouvoir se reposer. C'est pourquoi, partout où nous pouvons être, si je suis dans un pays où les gens travaillent le dimanche, le Seigneur permettra que moi, peut-être, je me repose le vendredi ou le jeudi. Donc, ça dépend. Mais on en retire un côté pratique, humainement parlant. C'est que le corps a besoin de repos et il ne faut pas négliger cela.
Donc, le corps a besoin de repos. En fait, on n'a pas de jour fixe. Ça peut être le dimanche, le vendredi.
Voilà. Donc, on n'a pas de jour fixe. Le Nouveau Testament nous montre que c'est l'Esprit qui nous conduit. Et deuxièmement, la terre ne sera jamais le paradis. Donc, on ne doit pas penser qu'il y ait une règle qui fixe les choses sur la terre pour... Non, on est là de passage. On en retire aujourd'hui les bienfaits pratiques. Le repos, c'est important pour le corps. Mais on ne fait pas de ça de loi qui va changer la terre, qui va faire que la terre devienne le paradis, quoi.
En fait, je posais la question parce qu'il y a certaines personnes qui disent, par exemple, que les chrétiens ne doivent pas travailler le dimanche. Parce qu'en France, par exemple, on considère que le dimanche, c'est le jour du repos.
Comme je l'ai dit précédemment, on ne peut pas en faire une loi comme si c'est cette loi-là qui va changer le monde. Ce n'est pas ça qui sauve. Que quelqu'un travaille dimanche ou pas, ce n'est pas ça qui sauve. Le chrétien a une destination, c'est le paradis, et il est sur la terre en attendant. Et nous avons appris par le Seigneur que c'est le chemin, la vie, la vérité, c'est lui-même. C'est ce qui fait que lui, le samedi, ses disciples, donc ça, on en arrivera quand on parlera profondément du sabbat, les disciples du Seigneur, dans Matthieu, ils ont... cueilli des épis le samedi, Jésus a guéri de mal, il a travaillé en quelque sorte, selon les juifs, il a travaillé le samedi. Donc on ne doit pas tomber dans le piège de vouloir tout régler sur la terre. Nous on est de passage, on doit apporter l'évangile aux gens. Maintenant, il est vrai que le côté pratique est là. Si je suis dans un pays où tout le monde se repose le vendredi, c'est mieux pour moi de me reposer le vendredi parce qu'il y a un repos général de tout. C'est mieux. Mais que ça ne devienne pas une sorte de loi quand quelqu'un travaillait le dimanche, c'est comme s'il a péché. Non. Voilà. Donc c'est mieux de profiter du repos général pour aussi se reposer parce que tout se repose. Maintenant, ce n'est pas non, on ne va pas en faire une nouvelle loi et... alors que le Seigneur n'a pas dit les choses comme ça. Oui.
Oui, pasteur, est-ce que on peut dire que de la semaine quand on travaille, les deux jours de repos obligatoires viennent de la Bible?
Les deux jours de
faire oui, deux jours. Oui, quand on travaille, on a deux jours de repos obligatoires dans le contrat de travail et tout dans la semaine.
Ah bon?
Oui.
Je ne savais pas.
Ah bah si, moi.
Ça dépend du travail. Hein. Il y a des gens qui travaillent du lundi au samedi, non? Non, en plus, ça dépend des pays. Voilà, je voulais toujours pour répondre à Sandrine, mais Après, avec ça, il y a des interprétations diverses. On va s'en sortir comment? Par exemple, en Israël, quand on dit samedi, là, ben, c'est le repos. Il y a plusieurs interprétations. Il y a des gens pour qui... On va lire un commandement, là. Tu ne feras pas, au verset 19, tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. C'est bien dit, tu ne feras point cuire un chevreau. C'est le fils d'une chèvre dans le lait de sa mère. Mais aujourd'hui, en Israël, tu ne peux pas prendre un repas avec quelque chose lié au lait. C'est-à-dire, soit tu prends du lait qu'avec du pain ou bien des trucs comme ça, fromage, mais tu ne peux pas, comme nous en France, tu manges des frites, saucisses, et puis à la fin, tu clôtures avec le fromage ou un yaourt. Ah non, tu ne peux pas. Pourtant, là, c'est dit chevreau, mais eux, ils ont généralisé avec tout. Donc, le lait ne doit pas être en contact avec... un repas avec un animal, donc c'est impossible. Ce qui fait que, bon, les gens qui aiment clôturer avec le fromage en Israël, c'est loupé. Hein. Donc, parce que tu ne peux pas, parce que on ne peut pas... Peut-être que ça va décourager certains à aller en voyage d'études là-bas, mais bon, que la nourriture ne nous bloque pas. Mais c'est pour dire que, après, il y a plusieurs interprétations. Il y en a qui vont dire... voilà, il ne faut pas faire ceci le dimanche, il ne faut pas faire ceci le samedi, et c'est sans fin. Donc, ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est le fait de croire en Jésus. Ça nous amène au ciel, et là, nous vivrons un sabbat éternel. Il y a quelqu'un qui... Oui.
Bonjour. Il est écrit, Exode 11, lire. 11, à partir de 11.
Mais la septième...
Va à partir des dix commandements. Les dix commandements.
Le chapitre 20.
Non, va à partir de 11.
Le chapitre 20, verset 11.
Oui.
Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié.
Pour qui? Pour lui. Le samedi pour le Dieu.
Il a sanctifié le septième jour, oui, oui.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que c'est un jour spécial.
Ça veut dire que ça ne se fait pas de rater le jour de samedi.
De rater quoi?
Il faut aller à l'église.
Non.
Non, c'est oui.
Mais attends que je réponde. On va lire aussi Romains 14.
Attends, alors. J'ai pas fini, s'il te plaît. Normalement, avant de sauter 21, 22, 23, il faut aller d'abord lire les deux commandements 20 à partir de 5.
Mais on l'a déjà fait?
Non, tu n'as pas vu la première page. Il faut lire d'abord la première page 20. Après, tu vas déplacer le 21, 22. Parce qu'ici, il parle. Il y a quelque chose ici. Lire 5.
Tu ne te prosterneras point devant elle.
5 jusqu'à 6.
Et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.
Ça veut dire quoi?
Je vais te répondre, mais il faut savoir qu'on a déjà traité de tout ça.
Non. Tous les jours ici, je n'ai jamais vu ça. Tu n'as pas parlé sur ça.
Mais on a fait tout Genèse jusque-là. Tu n'étais pas là.
Écoute, je suis toujours ici.
Tu n'es pas toujours ici. Il y a 10 ans, tu n'étais pas là, frère. Voilà. Mais je vais quand même t'expliquer. Mais pour tout le reste... il faut prendre le CD, on a déjà traité de tout ça. Mais il n'y a pas de souci, je vais expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les gens qui se font ce que le Seigneur interdit, ils sont maudits jusqu'à la quatrième génération de ceux qui le haïssent. C'est-à-dire quand une génération vient et continue à haïr Dieu, la malédiction continue. Mais si la génération qui vient dit non, moi j'aime Dieu, la malédiction s'arrête.
Et la solution comment?
Pardon?
Elle parle sur la malédiction et la bénédiction. Et pour la malédiction comment?
Mais pour la malédiction, c'est ce que je viens de dire.
Comment?
C'est-à-dire que quand tu n'aimes pas Dieu, la malédiction de tes parents t'attrape. Mais si tu aimes Dieu, la malédiction sur tes parents s'arrête.
Ah, je pense pas, c'est pas comme ça.
C'est écrit sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Donc si on continue à haïr Dieu, la malédiction continue.
Pour bloquer la malédiction.
Aujourd'hui même, on n'a même pas besoin de ce qu'on lit pour bloquer, on a Jésus. Jésus à la croix a pris toutes les malédictions. Donc quand quelqu'un croit en Jésus, toute malédiction c'est fini.
C'est pas comme ça.
C'est pas grave. On continue alors. Oui.
J'ai une question d'une personne sur Internet. Que dire des adventistes du septième jour pour qui le samedi est un jour saint?
Voilà. Donc nous revenons aux adventistes qui, pour eux, donc ils ont bloqué le samedi, ils sont restés dans ce qu'on est en train de lire. Et nous l'avions dit. Donc on va lire. Mais on a déjà traité de tout ça, mais on va répondre. Donc Jean 5, 17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. » Moi aussi, j'agis. Voilà. Donc, le problème, c'était verset 16, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Donc, le Seigneur, par cette réponse, et beaucoup d'autres réponses hein, dans Matthieu 12, le Seigneur montre que le sabbat n'était pas un blocage pour dire que tout est fixe. Le sabbat était un jour consacré à Dieu. C'est ça l'enseignement qu'il fallait prendre de cela. C'est un jour consacré à Dieu. Ce n'était pas une logique de ne pas bouger, de ne rien faire. Ce n'est pas ça qui comptait le plus. Ce qui comptait, c'est que c'est un jour que je consacre à Dieu. Je me repose des autres choses pour me consacrer à Dieu. Et donc, aujourd'hui, puisque la création avait été polluée, malgré le fait que Dieu l'avait créée, pure et bonne, le Seigneur Jésus nous dit, mon Père travaille, il n'est plus dans le repos dans lequel vous pensez, puisqu'il dit dans Jean 5, 17, il travaille. Donc ce repos-là qui avait été donné autrefois, du moment, c'était une image de la perfection de la création par rapport à quand Dieu, quand on a lu Exode 20, il dit, il l'a sanctifié parce que c'est ce jour-là qu'il s'est reposé après avoir travaillé pour la création. Mais Jésus nous explique qu'il a donné pour nous, qu'on s'en souvienne. Mais en réalité, Dieu continue à travailler. C'est pourquoi lui, Jésus, il travaille aussi. Mais maintenant, quand est-ce que Dieu trouve un autre repos? C'est lorsque Jésus-Christ est crucifié à la croix, là où il a crié « Tout est accompli ». Ah, là maintenant, quelqu'un qui croit en Jésus entre dans le repos des œuvres du Seigneur. Le Seigneur a tout accompli à la croix. Un vrai chrétien vit maintenant grâce à Jésus. Ce n'est plus par ses efforts. Un vrai chrétien est dans le repos d'une manière spirituelle parce que tout lui vient du Seigneur. Maintenant, c'est une réalité sur la terre. Nous continuons à vivre des guerres. Nous continuons à tomber malades. Nous continuons à avoir certaines lourdeurs. L'apôtre explique que tout cela finira à la fin du monde. Là, nous serons dans le sabbat éternel. Donc, on va lire encore Hébreux 4, 9. Mais il y a trop de passages. Bon, on lit Hébreux 4, 9, mais on reviendra sur le sabbat un jour spécial. Hébreux 4, 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Donc l'apôtre Paul dit que le repos, le sabbat qu'on connaît là aujourd'hui, qu'on a connu autrefois, n'est pas le repos réservé au peuple de Dieu. C'était un avant-goût. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu se reposait des siennes. Donc, dans le livre d'Hébreux, l'apôtre Paul démontre que si le repos du samedi était un vrai repos, dans le psaume 95, Dieu n'allait pas dire, mais ils ne sont pas entrés dans le repos. Donc, c'est une démonstration extraordinaire de l'apôtre Paul. Il donne un psaume dans lequel David explique que le peuple de Dieu n'est pas entré dans le repos parce qu'il a désobéi. Et l'apôtre dit, mais oui, mais s'il n'est pas entré dans le repos, donc le repos du sabbat n'est pas un vrai repos. C'est ça qu'il explique dans le livre, dans l'épître aux Hébreux. Donc le sabbat qui avait été donné autrefois, c'était un avant-goût pour prédire le sabbat qui vient. Premièrement, le deuxième sabbat, c'est lorsque Jésus-Christ est crucifié. On entre dans le repos parce que par ses œuvres, nous pouvons vivre la sainteté, nous pouvons obéir à Dieu, nous pouvons glorifier Dieu, nous sommes vainqueurs des maladies, vainqueurs des démons. Donc nous profitons des œuvres du Seigneur, donc nous entrons dans le repos du Seigneur. Ça, c'est le premier repos. Mais toutefois, la terre n'est pas encore, n'a pas encore subi la rédemption. Donc la terre est encore difficile pour nous et c'est à la fin du monde, quand le Seigneur nous amènera au paradis, que nous entrerons dans le repos définitif, le sabbat définitif. C'est ce que l'apôtre Paul explique ici quand il dit « Il y a un repos réservé au peuple de Dieu, ce sera le repos définitif. » Donc pour le moment, en tant que chrétiens, nous sommes dans le repos des œuvres accomplies à la croix par Jésus-Christ. Donc si aujourd'hui je peux vivre sans péché, c'est grâce à Jésus-Christ. Si aujourd'hui je peux vivre en manifestant de l'amour, c'est grâce à l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Si je peux prier, c'est grâce à l'œuvre accomplie par Jésus. Donc, en quelque sorte, moi, je suis dans le repos puisque c'est Jésus qui a travaillé à ma place. Donc, c'est le repos dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et le repos définitif, ça sera quand il n'y aura plus de maladies, plus de souffrances, plus de guerres, dans la félicité éternelle auprès de Dieu. Donc, le repos du sabbat d'Exode et des autres passages dans l'Ancien Testament, c'était provisoire. Jusque, comme l'apôtre Paul explique, jusqu'à un temps de réforme, c'était provisoire. C'est pourquoi une des choses que Jésus a faites, ça a été de travailler donc le jour du samedi pour expliquer que le temps de réforme est arrivé. Donc le temps du vrai repos est arrivé parce que le repos du samedi, ça n'a pas marché parce que la création a été polluée, ça n'a pas marché parce que le peuple n'a pas été à l'image de ce que Dieu attendait et le Seigneur nous apporte un véritable repos par Jésus. Et ensuite, il y aura le repos de la vie éternelle, une fois pour toutes. Voilà. Donc, s'il y a encore des questions sur Internet, là-dessus, en fait, ce que je propose, c'est qu'on rassemble toutes les questions possibles sur le sabbat, si c'est un sujet qui importe pour beaucoup de personnes. On rassemble toutes les questions, et bien, que ce soit un jour, rien que pour cela, en montrer avec les versets bibliques, c'est quoi le sabbat selon Dieu et dans comment nous devons vivre toutes ces choses-là. Oui, question.
Je voulais juste revenir sur le repos que tu expliquais que lorsqu'on était dans un pays ou bien dans un endroit où le repos était le vendredi ou le samedi, on devait se conformer à cette...
Pas se conformer, j'ai dit que c'est... Ce serait mieux de vivre la même chose, puisque toute la nature est en repos. Mais ce n'est pas une obligation. Voilà.
Non, je disais ça parce qu'il y a des personnes aussi... Enfin, j'ai déjà eu à discuter avec une personne en disant comme ça, le repos, certes, allait de façon physique, mais est-ce que spirituellement aussi, on doit s'octroyer ce repos-là ? C'est-à-dire se dire, aujourd'hui je suis en repos au travail, donc je ne vais pas à l'église parce que je suis fatigué, je reste à la maison.
Ah non, mais le repos du sabbat, c'est un repos consacré à Dieu, c'est le jour de Dieu. C'est-à-dire que tu consacres ça à Dieu. Mais maintenant, nous, dans le Nouveau Testament, on nous dit que nous devons prier sans cesse. On nous dit que notre corps appartient à Dieu. Donc on n'a pas un moment fixe plus que l'autre. Tous les moments sont importants. Et devait être consacré à Dieu. Donc la partie spirituelle, c'est ça là aujourd'hui. Nous, on n'a pas. Donc quand on vient ici, c'est parce qu'on est des humains. On s'accorde. Mais chacun de nous doit vivre avec Dieu à tout moment, prier sans cesse. Quand il veut manger, il prie. Quand il veut dormir, il prie. Et quand il mange même, il peut prier pendant qu'il mange. Donc, on doit prier sans cesse. Donc, on n'a plus... Donc, la partie spirituelle d'avant, comme c'était comme si c'était le samedi qu'il fallait faire les choses. Aujourd'hui, ce n'est plus le samedi. Ce n'est plus une question de jour. C'est à tout moment. À tout moment, par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, moi, je suis en train de parler de la partie pratique, physique, qui était aussi dans cette loi-là, quand il dit... Vous laissez la terre se reposer. C'est une partie, la partie pratique physique qu'on peut démontrer scientifiquement qu'une terre, après avoir beaucoup donné dans les arbres, elle perd en sels minéraux et beaucoup de choses. Donc, quand on la repose, elle se reconstitue. Ça, c'est la partie pratique. Donc, moi, je suis en train de parler de la partie pratique quand tu te retrouves dans un pays où les gens se reposent le vendredi. C'est mieux pour toi de te reposer aussi physiquement le vendredi. Parce que toute la nature est en repos. Voilà. Alors que toi, tu vas te reposer le mercredi et tout le monde travaille le mercredi, toi, tu ne vas pas profiter réellement. Parce qu'il y a du bruit, il y a du mouvement, il y a ceci, cela. Donc, mais quand tout le monde se repose et que toi aussi, tu te reposes, ton environnement est aussi calme. Physiquement, tu en profites. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, ça, c'est la partie pratique. Mais la partie spirituelle, c'est clair. Nous n'avons pas de jour exceptionnel. Je vais lire encore un passage pour clôturer ce volet. Colossiens 2. Colossiens 2. Colossiens 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre, mais le corps est en Christ. Le corps, ça veut dire quoi? La réalité. Parce que quand tu vois l'ombre de quelqu'un, ce n'est pas encore lui, mais ça l'annonce. Maintenant, quand lui-même est là, est-ce que tu as besoin de calculer son ombre? Non. Donc, il y a deux personnes qui viennent, un enfant et un adulte. En fonction de leur ombre, tu sais quelle ombre représente qui. Maintenant, quand eux-mêmes sont déjà là, ben, tu n'as plus besoin d'ombre pour te situer. Tu les as eux-mêmes. Donc, il explique que tout ça, qu'on est en train de lire d'Exode, la partie spirituelle, c'était l'ombre de choses. Aujourd'hui, nous avons Jésus, c'est lui le corps, c'est lui la réalité. On suit le corps puisqu'il est déjà là. C'est ça la... Donc, on n'a pas de jour, que personne ne nous embête pour des histoires de jours. C'est ce qui est écrit là, de sabbat, tout ça. Que personne ne nous embête. Et dans Romains 14, on en parle encore, que nous ne puissions pas nous disputer pour une question de jours. Celui qui juge qu'un jour est important, eh bien, qu'il fasse les choses ce jour-là, il n'y a pas de souci. Donc, que ça ne soit pas le sujet de dispute, puisque nous, ce qui nous amène au ciel, c'est le salut que Jésus nous apporte. Ce n'est pas les jours, c'est le salut que Jésus a accompli pour nous à la croix. C'est ça qui nous amène au ciel. Voilà. Donc, tout le reste, c'est des formes de distraction. Ok, nous continuons. Exode 23, 14.
Exode 23, 14. Trois fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Trois fois par année, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime sacrifiée en mon honneur, et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère.
Voilà, donc il y a des instructions sur les fêtes, mais ce n'est qu'une introduction parce que dans Lévitique, c'est là qu'on va voir vraiment toutes les instructions en long et en large sur les fêtes. Mais là, c'est une petite introduction sur trois fêtes seulement. Mais après, on reviendra là-dessus quand on touchera le livre de Lévitique. Et puis, au verset, 19, c'est écrit, tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Bon, c'est une instruction dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants scientifiques, mais historiquement, c'était une pratique des Phéniciens. Donc, il y a un peuple qu'on appelle les Phéniciens, donc le Liban d'aujourd'hui, qui habitait le Liban d'aujourd'hui. Ce peuple-là avait ces pratiques. Donc là, le Seigneur donne une instruction pour éviter que son peuple copie des pratiques faites pour des dieux étrangers. Voilà.
Pasteur, je crois que je ne comprends pas trop bien la signification du pain sans levain.
C'est du pain qu'on a fait sans mettre de la levure.
Oui, mais ça veut dire quoi? Que les Juifs ne devaient pas manger du pain sans levure? Ou est-ce que c'est un truc spirituel?
Non, non. Dans l'offrande qu'ils doivent donner à Dieu, le pain, là, ne doit pas avoir de levain. Mais si tu veux manger chez toi à la maison, tu peux mettre du levain. Non, je ne parle pas de toi, je parle des Juifs. Voilà, les Juifs, chez eux, ils mangeaient du pain avec du levain. Ce n'est que quand il fallait offrir à Dieu que c'était du pain sans levain.
Ah d'accord, moi je crois que c'était un... Je crois que ça voulait dire que...
Que les Juifs mangeaient les pains qu'on mange le dimanche.
Non, que le pain sans levain, c'est un... Genre les chrétiens sont péchés, quelque chose comme ça.
Mais oui, ça veut dire ça. C'est ça la question, oui. Mais là, spirituellement, ça veut dire... l'enfant de Dieu, surtout Christ, qui était... Au fait, le pain représente Christ. Christ était sans péché. Donc le pain là dont il est question, le Seigneur a dit que c'est lui le véritable pain, dans Jean 6. Il dit, je suis le pain de vie. Donc c'est lui le véritable pain. C'est pourquoi il était sans levain, parce que Christ était sans péché. Voilà. On continue? Oui.
C'est pas ça l'explication. En plus, comme je t'ai vu dernièrement avec l'eau baptême, ça marche pas comme ça avec l'eau baptême. Qu'est-ce tu veux baptiser quelqu'un dernièrement, c'est toi normal.
Non, qu'est-ce qui ne marche pas avec le baptême?
C'est pas comme ça.
Oui, mais dis-nous.
Tu prends quelqu'un comme un mouton, comme ça, c'est pas comme ça.
Mais ça se fait comment alors?
Tu as bien posé la question. Ça veut dire que vous ne savez pas.
Non, je te pose la question.
Ça veut dire que vous ne savez pas comment vont poser la question.
Non, parce que moi j'ai fait, tu as dit que ça ne se fait pas comme ça le baptême. Maintenant, ça se fait comment le baptême? Selon la Bible.
Est-ce que vous pouvez me répéter comment tu as fait? Tu as fait comment?
Non, c'est toi qui as dit que ce n'était pas bon. Maintenant, on fait comment alors?
Comme ça, après, dans de l'eau, ça ne marche pas comme ça.
On met dans quoi alors? Pas dans de l'eau, dans quoi? On met dans quoi?
La prochaine fois, comme il y a quelqu'un qui va baptiser, on va voir ici comment.
On va voir comment?
Je vais te montrer comment on va faire.
Là, ça se voit qu'il y a un problème.
Ah oui?
Donc, parce que...
Après, on va faire la répétition pour ton baptême ici. On va faire juger, on va voir comment.
Bon. On va discuter après, donc on va pas se laisser distraire. Ok, d'accord. Donc, nous arrivons au verset 20 à 33.
Exode chapitre 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Hétiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leurs dieux et ce serait un piège pour toi.
Voilà donc les instructions de Dieu. Il dit, je t'envoie un ange donc, qui va t'amener à la victoire. C'est une révélation qu'on a ici sur le fait que quand le Seigneur envoie ses enfants, ils sont accompagnés d'anges. On a un exemple encore dans 2 Rois 6 où le prophète Élisée dit « Seigneur, ouvre-lui les yeux qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont dans les camps adverses. » Donc on a une information comme quoi donc les chrétiens, les enfants de Dieu ne combattent pas seuls. Il y a les anges qui sont avec eux, qui les accompagnent. On retrouve ça dans Hébreux 1, 14. C'est écrit que les anges sont des esprits que Dieu met au service des élus. Donc quand les élus sont en opération, quand les élus sont quelque part, il y a les anges qui les accompagnent. On retrouve ça encore quand Pierre était en prison. C'est un ange qui l'a libéré. Voilà, donc il a brisé les chaînes, il a sorti. Voilà, donc on retrouve ça. Et les gens de l'époque le savaient aussi, parce que quand Pierre frappe à la porte, les gens disent, c'est peut-être son ange. Donc les gens de l'époque étaient conscients que quand le peuple de Dieu fonctionnait, les anges étaient là. Donc c'était une réalité. C'est une réalité et c'est ce que cet exemple-là nous montre. On se souvient aussi de Josué, quand il veut traverser, donc passer à une autre étape, il a vu un ange. Il a dit, tu es contre nous ou avec nous? Donc, il a discuté avec cet ange. Cet ange lui a dit, je suis le chef des armées de Dieu. Donc, quand le Seigneur nous donne une mission, il donne à ses enfants des choses à faire, il y a les anges qui les accompagnent. Parce qu'il faut savoir que dans l'autre camp, il y a aussi les mauvais esprits qui combattent. Donc, nous, on est accompagnés par les anges dans ce que nous avons à faire avec Dieu. C'est un grand réconfort. Oui,
oui, pasteur. Moi, je voulais parler un peu sur le verset sur l'avortement concernant les chrétiens. Deux fois, il y a un mari bon, qui se dit chrétien et qui ne veut pas de l'enfant, mais qui oblige la femme à avorter. Vu que la femme est soumise à son mari, est-ce que, malgré le fait qu'elle va prier pour demander pardon, est-ce qu'elle va être punie par Dieu ou vu qu'elle a obéi à son mari?
Elle doit refuser.
Parce qu'elle elle est mariée.
Ah oui, la Bible dit dans Actes 4, 19 et Actes 5, 29, entre Dieu et les hommes, il faut obéir à Dieu.
Mais les femmes qui acceptent finalement de le faire, parce que moi, je connais des cas comme ça.
Elles sont complices. Elles pêchent. Elles sont complices.
Mais si elle dit non, il y a un cas de divorce ou ça ne va pas du tout avec le mari.
Le Seigneur
ou...
va arranger. Elle dit non. Donc si le mari dit, allez, on va aller voler Emmanuel Macron, tu suis aussi le mari. Mais oui! Donc vous allez vous faire éliminer, hein, vous tous, avant même d'arriver à sa chambre. Hein. Donc c'est... Non, quand c'est contre la volonté de Dieu, on ne fait pas, même si c'est le mari qui dit.
D'accord, je comprends. Et une autre question, j'avais vu une vidéo d'une petite fille que son père l'obligeait à voler dans les magasins pour se nourrir. Et la petite fille s'était fait attraper, et elle disait que non, c'est son père qui le demandait à aller voler des trucs à manger. Pourtant, la Bible dit, tu ne voleras point, un truc comme ça, mais elle ne sait pas. Mais les parents qui font ça, Il y a des chrétiens aussi qui font ça, hein, qui obligent leurs enfants. Bah oui, il y en a.
Non, mais ce ne sont pas des chrétiens, Gaël.
Oui, mais par rapport à la petite, je veux dire...
Non, toi, tu dis, il y a des chrétiens aussi qui font ça. Moi, je te dis que ce n'est pas des chrétiens. Des chrétiens qui vont obliger leurs enfants à voler, ce n'est pas des chrétiens. C'est des gens qui se disent chrétiens, mais ils ne le sont pas. Voilà. Donc, ces enfants-là doivent aussi refuser. Ah oui, oui. S'ils sont des vrais enfants de Dieu, oui.
Encore une autre question internet. Est-ce que quand nous prions, nous pouvons dire en rappel au Seigneur toutes ces promesses que nous venons de lire?
Quand nous prions? Ah, mais c'est ce que nous devons faire d'ailleurs. Hein. Rappelez au Seigneur, il le dit dans Ésaïe 43, 26. Rappelez-moi, amenez-moi à mon souvenir, ramenez à mon souvenir, plaidons ensemble. Il le dit lui-même dans Ésaïe 43, 26. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on doit prier. Donc, rappelez au Seigneur ce qu'il a dit. Donc, comme il est fidèle, il va l'accomplir. Donc, les prières efficaces, c'est une construction des promesses du Seigneur. Donc, c'est comme ça que Jésus dit, « Mon Père, tu m'exauces toujours. » Pourquoi son Père l'exauçait toujours? Parce que Jésus ne rappelait que ce que son Père avait dit. Et donc, il sait qu'il sera toujours exaucé. Si on veut toujours être exaucé, ben, il faut qu'on recite, qu'on dise à Dieu ce qu'il a promis et bâtir ensemble avec lui dans la prière. Oui?
Oui, c'est par rapport à l'ange. En fait, je ne comprends pas verset 21 où ça dit « Ne lui résiste pas parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. »
Oui, moi je pense que là, quand on dit « parce qu'il ne pardonnera pas, donc il ne supportera pas, je crois, que vous péchiez parce qu'il est comme moi, donc il ne supportera pas le péché. Donc il frappera. Donc dès que vous pécherez, il vous frappera, en quelque sorte, comme ça. Il n'excusera pas le péché. Oui, oui.
Oui, je voudrais revenir à la question. Oui. Je voudrais revenir à la question internet de tout à l'heure parce qu'il y a des personnes qui disent qu'il faut prendre le Seigneur au mot. Donc il y a une...
Ah non, de faire comme une sorte de droit.
Voilà.
Donc il a dit ça, il doit faire
voilà.
Ceci. Non.
Donc là.
Là pas du
peu
tout.
D'humilité.
Nous restons toujours dans le fait qu'il est souverain. Mais nous bâtissons avec lui en fonction de ce qu'il a dit. Comme ça, on est sûr qu'on est dans sa volonté. C'est juste pour être sûr d'être dans sa volonté, mais il reste souverain dans son exaucement. Donc, il peut faire ça tout de suite comme après. Mais il sait, de toute façon, Dieu nous aime. Il est bon. Il va nous donner la chose au bon moment. Mais forcer Dieu à dire, puisqu'il a dit ceci, il doit me donner cela, non. Et on ne peut pas forcer. Mais... au moins, nous sommes dans sa volonté. 1 Jean 5, 14 à 15 nous dit que nous avons la chose, quelle qu'elle soit. Oui, oui. Est-ce qu'on peut changer de micro?
Oui, dans ce cas, comment mettre en pratique alors quand le Seigneur dit « Mettez-moi à l'épreuve », notamment dans Malachie?
Oui, mettez-moi à l'épreuve dans quand le Seigneur te donne une instruction et que il te dit va, là c'était la dîme, mais je donne un exemple. Le Seigneur te dit va à Paris. Maintenant, toi tu hésites. Ton raisonnement te montre que c'est la mauvaise voie. C'est là que le Seigneur dit mets-moi à l'épreuve, obéis pour voir. Donc là, ça vient de l'instruction du Seigneur. Il te dit de faire quelque chose et que toi, tu hésites parce que ça te dépasse. Il te dit non, mets-moi à l'épreuve. Essaye, voir si moi, je ne serai pas avec toi. Voilà, c'est dans ce sens-là.
C'est juste pour un petit résumé comme ça. Comme... tu fais des baptêmes comme dernièrement, ça ne se fait pas selon le discours d'aujourd'hui sur la malédiction. Ne faites pas des baptêmes comme ça.
Bon,
c'est juste un petit résumé.
Tu ne nous as pas toujours expliqué.
Ah oui, oui, après,
qu'est-ce qu'on ne doit pas faire.
Comment on va? Il y a quelqu'un pour le baptême, je viens là-bas, je vais
te montrer. Non, là, explique-nous maintenant comment on doit faire le baptême.
Ça veut dire, vous ne connaissez pas comment vous faites des baptêmes.
Bon, je pense que vous ne cherchez, cherchez pas à construire. Non, on ne vous donnera plus le micro.
J'ai pas fini.
Vous finissez là, non, ça sera le dernier tour.
Sinon, voilà, tu prends une grande malédiction sur ta tête. Ça ne se fait pas de faire comme ça.
Mais on vous demande comment on fait, vous ne répondez pas. Donc ça sera le dernier tour du micro. Vous avez fini? Vous ne cherchez pas à construire, vous ne lui donnez plus le micro.
Oui, pour reprendre ce qu'avait dit le frère Amou, je crois qu'à l'issue du baptême qui avait eu lieu, j'étais avec l'ancien Jean-Hulc, et il nous avait pris à partie. Et il nous avait dit aussi, je crois que tu t'en souviens, qu'il fallait absolument, avant ou après le baptême, qu'il fallait imposer la main à la personne baptisée pour qu'elle reçoive le don ou le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que tu avais dit, hein? Ah, d'accord, ok. Bon, c'était bon, juste ça. C'est...
Mais je ne comprends pas, il n'explique pas. Bon, on permet qu'il y ait des questions pour qu'on s'édifie, mais pas pour qu'on se détruise. Donc, c'est pourquoi on ne lui donnera plus le micro. Oui.
Est-ce que toutes les personnes ont un ange gardien?
Je cherche pas, je ne veux pas créer de théorie. Je sais seulement que quand on a frappé à la porte, les gens ont dit c'est peut-être son ange. Alors, je ne sais pas si c'est un ange.
Okay. Parce que c'était une expression que.
Oui, bon, en tout cas, moi je n'ai pas vu ça dans la Bible, que chacun ait un ange gardien.
D'accord.
Mais comme on a lu, les anges sont. Ils viennent nous soutenir dans le travail. Ça, c'est clairement écrit. Hébreux 1,14. On a lu, voilà. OK. Le Seigneur montre bien encore là qu'il envoie un ange. Il marchera devant toi. Il insiste, il ne faut pas se prosterner devant d'autres dieux. Oui.
Encore question Internet, mais est-ce que ces promesses sont pour tout le monde, dans le sens où Dieu a un plan pour chacun? Donc tu peux prier en réclamer une de ces promesses qui ne t'est pas destinée, en réclamant, c'est-à-dire en lui rappelant la promesse en question.
Non, les promesses du Seigneur sont pour tout le monde. Et quand on dit promesse, c'est vraiment Dieu qui a parlé, qui a dit vous serez le premier, vous ne serez pas le dernier, tout ça. C'est des promesses pour tous les chrétiens, ce n'est pas une promesse pour... une personne spéciale. Mais les dons du Seigneur ne sont l'appel du Seigneur, le Seigneur n'est pas le même appel pour tout le monde. Il y a des promesses qui sont pour tout le monde, mais l'appel n'est pas le même. Donc tout le monde n'est pas appelé à être apôtre, tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, tout le monde n'est pas appelé à traduire la Bible. Donc chacun a son appel. Mais les promesses de protection du Seigneur, les promesses d'amour du Seigneur, tout ça c'est pour tout le monde. Donc on peut les réclamer. On peut les réclamer maintenant. C'est le Seigneur qui va te dire, comme il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Parce que Paul demandait la guérison. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit parce que ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Donc je ne te guéris pas, mais je suis avec toi. Voilà, c'est le Seigneur qui te dira. Par rapport à ce que tu me réclames là, je ne t'accorderai pas ça, je t'expliquerai plus tard, mais je ne t'accorde pas pour le moment, ma grâce te suffit. Mais toutes les promesses de la Bible sont pour tout le monde. Mais les dons et l'appel ne sont pas toujours les mêmes pour tous. Ok, donc nous... Et le Seigneur insiste sur le fait... de ne pas adorer d'autres dieux. Et c'est vraiment, comprenons, il insiste. Il dit, vous... Et si le Seigneur insiste ainsi, jusqu'au point de dire au verset 33, il ne faut pas faire alliance avec les étrangers parce que tu finiras par adorer leur dieu, c'est que le Seigneur connaît la nature humaine. la nature humaine a tendance à rejeter le vrai Dieu. Mais comme la nature humaine a besoin d'un Dieu, parce qu'il n'est pas complet, l'homme, il a toujours besoin de quelqu'un d'extérieur. Quand on rejette le véritable Dieu, on finit chez le faux Dieu. Voilà, on finit chez le faux Dieu et le Seigneur le sait. C'est pourquoi, d'une manière physique, il a voulu préserver, les enfants d'Israël en disant non, vous restez entre vous. Mais nous, il nous a donné le Saint-Esprit pour nous rappeler sans cesse que c'est lui seul, l'Éternel, qu'on doit adorer. Il nous a donné la Bible, sa parole, pour nous rappeler sans cesse que c'est lui qu'on doit adorer. Mais comprenons que la même interdiction vaut encore aujourd'hui parce que les humains sont toujours les humains et ils ont tendance, peut-être ils n'adorent pas les mêmes dieux qu'autrefois, mais ils en ont encore aujourd'hui. Ils adorent des humains, ils adorent des pasteurs, ils adorent des bâtiments, ils adorent leur travail. Il y a beaucoup de choses qu'on peut remplacer par rapport aux faux dieux d'autrefois. Ça existe jusqu'aujourd'hui. À nous d'être vigilants. Ne croyons pas que ce sont des vieux commandements qui ne valent pas aujourd'hui. Ça vaut jusqu'aujourd'hui parce que l'homme continue toujours à adorer des faux dieux, mais c'est les faux dieux qui ont changé, c'est tout. Voilà. Et verset 27, j'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis, j'enverrai les frelons devant toi, ainsi de suite. Mais il y a un verset qui est aussi très beau, verset 29, je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne désert. Un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Donc, parfois, nous sommes étonnés de voir que certaines épreuves continuent ou certaines souffrances. Et il y a des raisons. Là, le Seigneur dit, étiens tes ennemis, je ne les chasserai pas d'un coup. Je les chasserai progressivement. Parce que si je les chasse d'un coup, c'est le bête sauvage. Donc, des ennemis peut-être plus dangereux encore qui viendront te détruire. Donc, ça va. Je vais le faire. Le temps, il le dit, hein, c'est vraiment l'explication. Il dit, le temps que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Il faut que tu augmentes en nombre. Parce que les guerres, il ne suffit pas de les gagner. Hein. Il faut occuper le terrain. Parlez avec n'importe quel vrai militaire, il vous dira la guerre se gagne par les fantassins, par les gens qui sont, par la troupe, les troupes qui au sol. Vous avez beau avoir les meilleurs avions, les meilleurs bateaux, les meilleurs missiles, mais la guerre se terminera que par les soldats au sol. Sans les soldats au sol, la guerre n'est pas encore finie. Parce qu'il faut occuper le terrain. Donc le Seigneur ne voulait pas dégager les ennemis, mais le peuple est trop petit. Le terrain va être inoccupé. Et comme ces gens-là, les ennemis, qui étaient aussi un peuple, ne seront plus là, mais il y aura un plus grand désordre parce que la terre va être occupée par des gens incontrôlables. Les bêtes sauvages et les bandits, il y a beaucoup de choses qui peuvent remplacer. Parfois, nous nous plaignons, nous ne savons pas, surtout on se plaint des présidents. Nous, à notre époque, voilà, pas à notre époque, je veux dire, à une certaine époque, on s'était plaint de Sarko. Mais celui qui est venu après Sarko, on s'est encore plus plaint de lui. Voilà, donc... Parfois, on se plaint, on dit « Ah, mais oui, mais le dirigeant, il est mauvais, il est ceci. » Mais est-ce que tu sais celui qui va venir, celui qu'il va être ? Voilà. Le Seigneur, il a dit « Je vais faire ça progressivement. » Parce que si je le chasse d'un coup, le terrain va être occupé par des forces plus dangereuses. Et je veux d'abord que toi, tu croisses en nombre, comme ça tu peux occuper le terrain. Quand je les ai recherchés. Donc le Seigneur, parfois, il attend que nous entrions dans la maturité pour nous donner certaines bénédictions. pour nous libérer dans notre appel. Parfois, on a un appel, mais ça ne se libère pas parce qu'on a encore un problème de maturité. Il sait que si j'élimine ses ennemis, cette personne-là va crier sur tous les toits, « Dieu m'a éliminé les ennemis ». Au lieu d'aimer ces gens-là, au lieu de chercher à les sauver, il va plutôt les écraser. Il n'a pas encore la maturité d'amour pour que j'élimine tous ses ennemis. Donc, il faut encore qu'ils grandissent dans l'amour, qu'ils grandissent dans la dépendance à moi. Là, je pourrai les libérer des ennemis. Parce que si je libère tous ces ennemis maintenant, la personne ne va plus me chercher. La personne ne va plus me servir. Et on a vu ça avec les années qu'on a faites dans le Seigneur. On a vu beaucoup de gens, dès qu'ils sont entrés dans la prospérité, Dieu les a bénis, Dieu les a donné quelque chose, beaucoup se sont retirés du Seigneur. Et au début, la personne était régulière, la personne était déterminée, mais dès qu'il n'y a plus eu d'ennemis, vraiment, il n'y a plus eu de freins, la personne s'est mariée, a des enfants, a une maison, a ceci, la personne est entrée dans une certaine stabilité, elle ne voit plus beaucoup pourquoi prier Dieu. Or, quand il était dans les problèmes, la personne pensait prier Dieu. Mais quand Dieu a tout donné, la personne oublie Dieu. Donc parfois, Dieu maintient certaines difficultés pour nous faire grandir, de sorte que quand il donnera la grande bénédiction, on reste toujours avec lui. Oui.
Pasteur, j'ai une question. En fait, je voulais savoir, est-ce que si un chrétien vit les difficultés dans sa vie, est-ce que c'est forcément dû d'un péché ou bien Dieu permet certaines choses pour briser l'orgueil au loup? Bien, je voulais savoir un peu.
Oui, oui. Donc, Dieu peut permettre des difficultés pour briser l'orgueil, pour nous maintenir près de lui. Parce qu'il sait que s'il n'y a pas de difficultés, on ne va plus venir à lui. On va se débrouiller tout seul. Mais là, ça sera encore pire parce que Satan va venir nous détruire encore plus fort. Donc, comme il ne veut pas qu'on soit détruit, il ne veut pas que les bêtes sauvages occupent, il ne veut pas chasser les difficultés totalement. Parce qu'il sait que s'il chasse les difficultés totalement, nous, on ne se souviendra plus de lui et il y aura encore de plus grandes difficultés qui viendront contre nous. Comme il nous aime, il ne va pas permettre ça.
Parce qu'une fois, tu avais dit que Dieu, par exemple, une personne qui était païen, devenue chrétien, Dieu ne veut pas qu'il puisse... Il garde une personne qui s'est convertie envers Dieu. Dieu ne veut pas qu'il puisse perdre sa vie, quoi. Par exemple, Dieu garde la personne. Par exemple, si tu devenais chrétien, oui. Dieu ne veut pas que sa bénédiction, tout le travail qu'il a fait dans une personne qui soit gaspillé. Tu avais dit ça une fois comme ça.
Dieu peut laisser la personne dans la difficulté pour la maintenir dans la foi. Oui, oui. Parce qu'il sait que j'ai fait un travail pour son salut, un travail immense, et surtout le travail de Jésus à la croix. Maintenant qu'il est sauvé, Dieu ne peut pas nous abandonner. Il a souffert pour nous avoir. Maintenant qu'on est sauvé, il est prêt à nous mettre en prison pour nous garder dans la foi. Il est prêt, voilà, il sait que tôt ou tard, on va se retrouver au ciel. Voilà. Il a souffert pour nous sauver. Maintenant que nous sommes sauvés, il ne va pas nous laisser. Donc quand il sent que enlever la difficulté va créer des problèmes de salut en nous, il ne peut pas permettre, il ne va pas enlever la difficulté, il va laisser pour qu'on reste toujours dans l'humilité. Il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Et c'est Paul qui le dit, à cause, pour préserver Paul de l'orgueil, il lui a mis une écharde, quelque chose qui faisait souffrir Paul toute sa vie, afin que Paul, par rapport à toutes les grâces qu'il a reçues de Dieu, Paul ne tombe pas dans l'orgueil. Voilà. Oui.
Oui, pasteur, toujours par rapport à ce passage-là, chez le texte de Josué, chapitre 15, verset 63, qui nous dit, bon, après la conquête, hein, qui nous dit, les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Donc, on voit bien qu'ici, ils n'ont pas cherché à, disons, ils n'ont pas obéi à la voix du Seigneur. Et on sait que plus tard, ça a été cause de chute. Quel rapport peux-tu établir entre ce passage-là et celui que je viens de lire?
Le passage qu'on a lu, où là, c'est progressivement qu'il veut éliminer pour les maintenir dans la foi. Là-bas, c'est par désobéissance. Voilà, c'est pas la même chose. Ici, c'est Dieu lui-même qui ne te donne pas une victoire totale parce qu'il veut te garder dans l'humilité. La difficulté permet que tu retournes toujours à lui. Alors qu'il y a des cas où la difficulté reste parce que toi, tu ne veux pas obéir à Dieu. Donc, il y a deux cas. Donc, il y a des cas où la difficulté reste parce que toi, tu n'obéis pas. Il y a des cas où la difficulté reste parce qu'il veut te préserver d'un mal futur que tu ne commets pas encore aujourd'hui. Voilà. Mais il lui sent que s'il enlève, tu commettras le mal, il préserve. Comme le cas de Paul. Il a préservé les chardes parce qu'il sentait que s'il enlevait ça, Paul serait tellement formidable, bonne santé, beaucoup de grâce spirituelle, Paul va tomber dans l'orgueil. Donc, alors que Paul ne commettait pas encore ce péché-là, Dieu permet la difficulté. Mais il y a des cas où Dieu va permettre la difficulté parce qu'on n'est pas entré dans l'obéissance. C'est pourquoi il a fallu l'homme, selon le cœur de Dieu, David, quand il est venu, il a pu vaincre les Jébusiens. Voilà. Donc, oui.
Et encore une question internet. Le Seigneur dit qu'il enverra telle ou telle épreuve au peuple ennemi, grêle, insecte, etc. Un chrétien peut-il prier et demander au Seigneur d'envoyer, par exemple, le tourment, la confusion vers quelqu'un?
Pas la souffrance. Donc, un chrétien ne peut pas demander la souffrance d'un autre humain. La Bible dit « Bénissez ceux qui vous maudissent ». Le Seigneur Jésus nous dit « Bénissez ceux qui vous maudissent ». Là, c'est Dieu lui-même qui dit ça. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui prie, c'est Dieu lui-même qui dit ça. Donc, si Dieu lui-même décide d'envoyer la souffrance, ça, c'est Dieu. Mais nous, on ne peut pas demander la souffrance de quelqu'un d'autre. On nous demande de bénir et d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. Voilà ce que la Bible nous demande. Et maintenant, si Dieu lui-même veut faire ça, qu'il fasse. Maintenant, nous, on peut demander comment, oui, mais la personne... qu'elle soit confondue dans ses mauvaises pensées, dans ses mauvais actes. Donc, confondue ne veut pas dire qu'elle souffre, mais qu'elle se morde la queue, que la personne se rende compte que ses mauvais actes ne font que la faire souffrir elle-même. Voilà. Donc, c'est une confusion. Tu pensais construire, mais Dieu te montre que tu es en train de détruire en réalité. Donc, c'est de la confusion. Et ça, on peut demander, mais pas chercher la souffrance de l'autre. Chercher, en quelque sorte, cette confusion-là et demander afin que la personne se réveille, réalise que ses actes ne font qu'apporter la destruction. Mais on a entendu par-ci, par-là, les gens prier pour envoyer le feu sur d'autres humains. Ce n'est pas bon. Nous ne devons pas envoyer le feu sur les humains. Fût-ils sorciers, on ne doit pas envoyer le feu sur eux. On doit prier pour qu'ils se convertissent. Maintenant, sur les démons, si Dieu nous inspire, on envoie le feu, mais s'il ne nous inspire pas, ne faisons pas de cela une technique. Voilà, donc on a parlé de la bonté de Dieu qui permet parfois certaines difficultés afin de nous maintenir près de lui. Parce qu'il sait que loin de lui, notre situation sera pire. En fait, pendant que nous, on souffre aujourd'hui, on se dit « Ah, Dieu ne voit pas que ma souffrance peut m'amener à renier la foi. » Dieu sait que tu ne renieras pas la foi. Il le sait. Il t'a eu difficilement. Il ne va pas te laisser partir comme ça. Mais il sait que s'il enlève la difficulté, alors là, tu vas t'éloigner de lui. Et là, les esprits, comme on voit dans Matthieu 12, Jésus dit, les esprits viennent 7 fois plus fort sur toi. Et je pense que même parmi nous, nous connaissons certains chrétiens d'autres fois qui ont partagé la foi avec nous. Mais avant, ils étaient dans certains péchés. Ils sont venus dans le Seigneur, mais quand ils ont quitté à nouveau le Seigneur, certains d'entre nous connaissent où ils sont arrivés, ces gens-là. Donc, ils ont péché plus que même quand ils étaient païens. Leur situation s'est même aggravée par rapport à autrefois. Ils ne connaissaient même pas Dieu. Donc, c'est ça la réalité. Dieu sait que s'il enlève la difficulté, tu vas t'éloigner et la souffrance, les bêtes sauvages viendront en grande quantité, et tu n'es pas préparé à les affronter, ça sera plus grave. Voilà, tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront point dans ton pays de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leur Dieu et serais un piège pour toi. Voilà. Là, ça rejoint 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Même si tu te crois le plus saint des chrétiens, celui qui aime le plus la parole, attention, les mauvaises compagnies sont très, très dangereuses. Il faut choisir ses amis. Les mauvaises compagnies, c'est comme la grippe. Ça te contamine, tu ne te rends pas compte. Donc, c'est que tu sois pasteur, qui que tu sois, il faut faire attention. Et quand on dit les mauvaises compagnies, même au milieu des chrétiens, il y a des chrétiens, donc facilitateurs des chutes des autres. Donc, il faut, quand on sent qu'un chrétien ne t'apporte que l'envie de critiquer les autres, il faut fuir ce genre de chrétiens. Parce que nous sommes le corps du Christ. Quand toi, tu veux m'inciter à ne pas aimer quelqu'un, donc tu es en train de casser quelque chose dans le corps du Christ. Donc, je n'ai pas accepté ça. Donc, c'est, quand on dit les mauvaises compagnies, ça va loin. Ce n'est pas seulement les païens. Tous les chrétiens qui n'aiment pas la construction de l'œuvre de Dieu, mais qui aiment défendre leurs propres intérêts, sont dangereux aussi. Un chrétien doit privilégier la construction de l'œuvre de Dieu. Donc, on n'a pas vu Pierre répondre mal à Paul quand Paul l'a blâmé en public. Pierre a reconnu ses erreurs et même dans l'épître de Pierre, Pierre rend hommage à Paul. Il dit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Voilà. Pierre défend Paul dans son épître, malgré le fait que Paul l'avait blâmé en public. Parce que Pierre visait la construction de l'œuvre de Dieu, il ne visait pas son honneur. Donc un chrétien qui ne vise que son honneur, il ne vise pas la construction de l'œuvre de Dieu, ben c'est de la mauvaise compagnie, il faut faire attention. Il faut toujours... Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter les autres, mais il faut les amener toujours à revenir à la parole. Et voilà ce que le Seigneur veut. Chapitre 24.
Exode, chapitre 24. Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. » Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Moïse se leva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. » Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits.
Voilà, il demeura 40 jours et 40 nuits. Donc on s'arrête sur le verset 7. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. Alors, une question qui me venait à l'esprit, mais pourquoi toujours signer les alliances avec le sang? Voilà, donc pourquoi signer l'alliance à chaque fois avec le sang? D'ailleurs, le Seigneur, quand il a fait la Sainte Cène, le dernier repas, il a dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance, c'est maintenant le sang de Jésus qui est le sang de la nouvelle alliance. Donc chaque alliance est signée avec le sang. Donc on verra dans Lévitique 17, c'est écrit que dans le sang se trouve la vie. Donc quand Dieu fait signer les alliances avec le sang, ça symbolise une implication de toute une vie. Donc toute une vie est impliquée dans cette affaire. Donc, puisque le sang, c'est le sang qui contient la vie. Donc, quand on verse le sang, on dit toute une vie, toute la vie, les deux parties sont pleinement impliquées dans l'affaire. Donc, avec Dieu, c'est une affaire de toute une vie. Ce n'est pas des contrats à durée déterminée ou des contrats à durée même indéterminée. Mais avec, on a vu des gens qui avaient des CDI avec Moulinex. Ils se sont retrouvés à pleurer comme tout le monde. Ce n'est pas des contrats de toute une vie, même si on dit contrat à durée indéterminée, mais il y a des clauses de cassure de ces contrats-là. Il y en a toujours. Mais avec Dieu, c'est le sang qui est répandu. Ça associe deux vies, une fois pour toutes. Ça nous montre combien c'est sérieux. C'est pourquoi dans le monde satanique, on utilise aussi le sang. Parce que ça t'implique, oui.
Tu viens d'amorcer un peu ce que je voulais dire.
C'était le problème, voilà.
Par rapport à ce que, parce que là, tu disais que avec le sang, ça implique vraiment toute une vie, mais du coup, Satan fait aussi le même système, mais
voilà.
C'est pas pour autant
donc,
que.
Voilà. Quand quelqu'un verse dans le monde satanique, quand le sang est versé, ça symbolise que les vies sont impliquées. C'est puissant une vie. Donc le sang contient la vie et c'est pourquoi même les alliances dans le monde satanique se sont faites avec le sang, parce que ça implique la vie. Et dans la vie de l'homme, il y a une grande puissance que Dieu a déposée dès le départ et c'est ce qui est utilisé dans le monde satanique. Mais il faut comprendre que le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, efface toutes les autres alliances. Donc même si quelqu'un a fait un contrat dans le monde satanique en versant du sang, le sang de Jésus peut effacer tout ça. Voilà. Donc, il ne faut pas que quelqu'un dise, « Ah oui, mais moi, j'avais vraiment versé mon sang, c'est trop tard. » Non, ce n'est pas trop tard. Le sang de Jésus peut te donner un nouveau recommencement. Ça efface les autres sangs. Il y a aussi des sangs d'aventure. Il y a des gens qui ont versé du sang. On s'aimera toute la vie, des trucs comme ça. Mais ils ont divorcé 15 ans après. Mais il y en a même qui ont changé de pays. Donc, ça s'est arrêté juste par un voyage. Donc, mais bon, on peut en rire, mais c'est quand même spirituel, c'est dangereux, puisque ça implique des puissances surnaturelles, c'est la vie qui entre en jeu. Il faut faire attention, mais le plus important, c'est de se souvenir que le sang de l'agneau efface toutes les autres alliances. Lorsqu'on se souvient qu'on a contracté une alliance par le sang, inconsciemment ou consciemment, on peut prier que le sang de l'agneau efface cette ancienne alliance, et ça sera fait. Voilà. Donc nous clôturons avec cette partie où Moïse, avec les autres, donc Moïse s'approche, il écrit la loi et il signe l'alliance avec le peuple. Donc nous continuerons donc les autres parties la fois prochaine. Donc je rappelle que tout à l'heure, nous avons répétition avec les femmes. Après l'étude biblique. Seigneur, nous te bénissons pour ces enseignements que tu nous donnes. Merci pour l'action de ton esprit qui nous permet de répondre aux questions et d'être édifié aussi par les questions, Seigneur. Merci pour tout ce que tu permets au milieu de nous afin de nous amener à croître et pas pour avoir un grand cerveau, mais pour te servir d'une manière plus efficace, d'une manière déterminée, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous aider à mettre cela en pratique et à sauver le reste qu'il y a à sauver et attendre ton retour avec certitude, force et amour. Merci, Jésus. Amen.